On est 10 sur la liste, on déboule devant la boîte, il y en a un qui rentre pas, personne rentre. C'est un morceau de Nekfeu.
Tous et toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord, aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. Le festival de Cannes s'annonce compliqué, ayant l'ombre de plusieurs menaces sur le coin du pif, et notamment une menace bien française, une grève risquant de fortement impacter son bon déroulé, je vous explique tout. À côté de ça, Marvel décide de réduire la voilure concernant ses futures sorties de films, la super-héros fatigue continue de poser problème à la boîte aux grandes oreilles, on va voir un peu comment ils gèrent tout ça en interne. Ensuite, dans la partie audio, on fera un bilan du box-office, notamment du film d'Artus, et dans la partie vidéo, les sorties cinéma de la semaine à ne pas rater. Et bien entendu, il y aura une question du public gauloise et, comme à lundi, une pépite japonaise qui remonte le temps. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma avec vous.
Eh bien, ça ne va pas être dans la poche.
Avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission dans son format podcast ou qui la regardent sur YouTube. Quel que soit le choix que vous faites, vous avez du contenu exclusif. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner partout. Je vais vite parce que j'ai deux annonces à vous faire qui concernent vraiment tous les auditeurs de l'émission. La première, c'est qu'il n'y aura pas d'émission ce vendredi. Voilà, je peux pas vous dire pourquoi encore, mais il n'y aura pas d'émission ce vendredi. Et si vous voulez avoir plus d'informations sur pourquoi il n'y a pas d'émission ce vendredi, je vous laisserai checker mon compte Instagram où je vais balancer pas mal d'infos. Instagram, le lien est en description. Et ça a un lien avec une deuxième annonce qui concerne plus les gens qui regardent la version vidéo. Mais si vous regardez l'émission dans sa version vidéo, c'est la dernière fois que vous voyez ce décor. Voilà, ce décor va disparaître, va partir. On s'y était attaché à ce décor, c'était le premier décor de l'émission, celui qui a vu plus de 120 épisodes déjà, mais le décor va devoir changer, ne vous inquiétez pas, il va changer pour le mieux, bien entendu. C'est juste que les circonstances font que ce décor doit être démonté, j'en parlerai davantage sur Insta. Et puis si vous regardez la version vidéo, je vais faire une petite séquence triste à la fin, où on va démonter le décor avec de la musique et tout, oh ça va être super, ça va être bien drama comme j'aime. Alors attention, hein, pas d'émission vendredi et la fin du décor, ça veut pas dire que l'émission s'arrête. Ah non, pas du tout. Vu le festival de Cannes qui nous arrive sur le pif, on est de retour dès lundi et il va y avoir un paquet de trucs à raconter. C'est juste que cette semaine et probablement la semaine prochaine, les émissions du vendredi vont devoir sauter. Habituellement, le pire podcast cinéma, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin. Cette fois-ci, avec un jour en moins, on reviendra vite, très très vite au rythme habituel, vous inquiétez pas. Et pour l'instant, bah, c'est parti pour le sujet du jour.
Respect et robustesse, Caius C+. Alors, les nouvelles sont bonnes ?
Ah, ils sont pas de la dernière marée, les nouvelles.
Moi, je veux du féroce actualité.
Vous n'êtes pas sans savoir que le Festival de Cannes ouvrira ses portes dans une semaine, un peu moins d'une semaine. Personne n'est prêt, moi non plus. Le départ, c'est mardi prochain, le 14 mai, avec la projection en ouverture du nouveau film de Quentin Dupieux, le deuxième acte, diffusion d'ailleurs qui sera faite en simultané partout en France dans plein de salles de cinéma. Renseignez-vous sur les cinémas autour de chez vous, mais il y en a beaucoup qui diffusent la cérémonie d'ouverture de Cannes avec ensuite la diffusion du film de Dupieux, comme si vous étiez à Cannes vous aussi. C'est vraiment un programme sympa pour votre mardi soir prochain. En tout cas, personnellement, moi j'ai très hâte de voir le film. Sauf que plane sur le Festival de Cannes un bon paquet de menaces qui risquent d'impacter son déroulé. Il est peu dire que le Festival de Cannes sera extrêmement particulier cette année. Et je vais annoncer le truc tout de suite, des gens auront peut-être pas la ref, mais d'autres m'ont posé énormément la question sur Instagram. Je ne vais pas aborder dans cette émission la question de la liste. Voilà, la fameuse liste, celle qui fait trembler tout le cinéma français en sueur. Parce que pour faire très rapide, il y a une grosse rumeur sur le fait qu'il y aurait une liste de noms qui serait révélée prochainement par Mediapart, avec 10 grosses pointures du cinéma français à l'intérieur, qui tomberaient pour une partie d'entre eux pour violence sexuelle. Le truc a été leak par le Figaro, ça spécule énormément sur les réseaux sociaux, et ouais, je vais être très premier degré, mais c'est vraiment de la merde de faire ça. Parce que de un, on sait pas qui est officiellement sur cette liste. Je veux dire, il y a des noms qui circulent, mais qui sont partagés par des comptes plus que douteux. Je croyais qu'on avait appris aux gens à checker leurs sources avant de commencer à lancer des cabales contre certaines personnes, mais visiblement, c'est toujours pas rentré. Donc sur des bases de spéculation et de rumeurs, ça part en chasse aux sorcières sur les réseaux sociaux, à base de « tu crois que c'est lui ? Non, moi je dis que c'est lui ! Oh non, pas lui, je l'aime bien ! Quoi, ce serait lui ?» Vraiment le terreau fertile à des discussions très constructives, ça. De deux, cette chasse aux sorcières montre juste l'avidité des gens à vouloir bouffer du sang et à s'en taper complètement des faits vérifiés, du contexte. Non, ce qu'ils veulent, c'est du drama, et la vraie histoire, les vraies personnes derrière, on s'en cogne. Et puis l'appellation, quoi, la liste, la fameuse liste. On en est réduit à quoi ? On est de retour à la chasse aux rouges ? Ou on est directement de retour en 40, c'est ça ? C'est ce genre de mécanisme que vous voulez réactiver ? Troisièmement, balancer 10 noms à la volée, ça les met tous sur le même pied d'égalité, sans encore une fois rien savoir du contexte, sans rien savoir des faits qui sont peut-être de nature totalement différente. Non, allez, faut tout cancel, tous pareils, pas de demi-mesure, bravo, radicalité en carton. Et ça participe encore une fois à particulièrement dégrader les débats publics sur ces sujets-là. Et quatrièmement, c'est le dernier point, je vous promets, ça nique le boulot des journalistes. Bah ouais, ça fait des mois qu'ils bossent sur une enquête pour essayer de faire un truc carré, et la perception du public avant même qu'elle sorte, c'est qu'on lui coupe la tête ! Bah c'est super, bravo ! Croyez bien quelqu'un qui connaît que trop bien ce sujet, ce genre de réaction, ça n'aide personne. Quel que soit le camp. Tout ce que ça démontre, c'est une envie profonde de sang et pas de recherche de la vérité.
Putain, j'ai commencé en disant que je voulais pas aborder ce sujet. Qu'est-ce que ça va être quand je vais vraiment l'aborder ?
Non, ici, aujourd'hui, on va essayer d'aborder quelque chose de bien plus concret, de pas forcément plus léger, mais qui me permet de ressortir cette phrase qui nous a accompagnés pendant des mois. Connaissez-vous la grève ? Tout part d'un collectif nommé Sous les écrans la Dèche, représentant les travailleurs et travailleuses des festivals de cinéma et qui alerte depuis un an sur la grande précarité de ces milieux-là. Ils ont balancé un communiqué d'appel à la grève, qui est une chose rarissime dans les milieux et qui explique plutôt bien les raisons de la colère. En gros, bosser sur un festival de cinéma, rechercher des films à diffuser, courir à droite à gauche pour faire les sélections, eh ben c'est un travail intermittent. Ça devrait être dans le cadre de l'intermittence du spectacle. Et c'est pas le cas. Évidemment que c'est de l'intermittence, le festival il est une fois par an, donc t'es obligé de bosser beaucoup à une période, un peu moins à une autre, c'est littéralement ce pourquoi l'intermittence du spectacle a été créée. Et le problème c'est que avec la réforme de l'assurance chômage et le reste qui va arriver d'ici le 1er juillet, eh ben les travailleurs de ce secteur vont tomber dans une précarité monstre. Précarité qui était déjà très très présente. Ah, les membres du gouvernement, ça aime pas vanner sur les tapis rouges des festivals, mais quand il s'agit de protéger les gens qui permettent au festival d'exister, l'œil a plus personne. Leur demande est simple, ils veulent que leur structure soit rattachée à une convention collective adaptée, leur permettant d'être embauchés au régime de l'intermittence et d'être considérés comme des intermittents du spectacle. Ce qu'ils sont dans les faits, ce serait logique. Ils expliquent dans le communiqué que, globalement pour l'instant, à chaque fois qu'ils ont alerté les pouvoirs publics à ce sujet, on leur a fait des sourires polis, mais rien s'est passé. Ah, Rachida à la culture, c'est pas de son, pas d'image. Non mais tu comprends, elle est débordée, il y a deux jours elle était au Molière à devoir rigoler aux blagues sur le chien de Gabriel Attal. Elle peut pas être partout la pauvre. Et du coup, appel à la grève. Juste avant Cannes. Ça risque de foutre un sacré caillou dans les rouages de la machine. Parce que concernant Cannes, on parle de postes clés, hein, je les ai listés, on parle de projectionnistes, de sous-titreurs, d'attachés de presse, d'employés administratifs techniques, des personnes plus qu'importantes pour que le festival puisse fonctionner normalement. En l'état, d'après les chiffres qu'ils ont donnés, 80% des employés du festival de Cannes gagnent moins de 2000 euros par mois. Ce qui paraît comme ça être pas si grave, mais qui prend une toute autre tournure quand tu le remets en perspective de leur travail. Et puis aussi en perspective d'un tel événement qui brasse plus de pognon que je n'en aurais jamais sur mon compte en banque. Parce que oui, bosser dans ce genre de festival, bosser dans le milieu de la culture en général, ça oblige à vivre à Paris, un endroit où les loyers sont exorbitants. Et en les payant aussi peu que ça, tu ne peux pas vivre convenablement à Paris, surtout quand t'as 30 ans de métier, que t'as des gamins, etc. Du coup, on te demande de faire toujours plus d'efforts au détriment de ta vie personnelle et t'es baisé. T'es obligé de vivre dans Paris pour te rendre rapidement à certains endroits, sauf qu'en parallèle, bah, si jamais tu dis, bah non, désolé, je peux pas tenir ou quoi, bah, tu te feras virer. En fait, faut que tu choisisses. Soit vivre dans la précarité et continuer ce métier, soit arrêter ce métier, mais du coup, bah, au revoir, quoi. Au revoir le merveilleux monde du cinéma.
Puis si tu déménages, t'es viré, de toute façon, donc, voilà, hunk.
Évidemment, face à de telles pressions, le Festival de Cannes tremble un peu des genoux, voilà, c'est une manière gentille de le dire, et le collectif reçoit pas mal de soutien, notamment de la dernière à avoir reçu une palme d'or, la merveilleuse Justine Triet. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'elle, ça fait plaisir, elle est toujours aussi engagée, et son engagement aux côtés du collectif Sous les écrans la Dèche n'est pas nouveau, puisqu'on l'a vu littéralement l'année dernière quand elle a gagné la palme d'or, arborer un patch qui avait les couleurs du collectif. En vrai, à quand un retour du Cannes de mai 68, celui où t'as un réalisateur comme Godard qui prend la parole en disant « Hey les gars, ça se tape à Paris, on va quand même pas parler de cinéma ici !» En vrai, si la terrible liste sort et qu'en plus de ça, t'as les gens qui font Cannes, qui se mettent en grève, il va rester quoi au Festival de Cannes cette année ? Il y aura des journalistes et des soirées sur la plage. Ouais, dit comme ça, on a juste l'impression que ce sera comme d'habitude. Et si on reparlait un petit coup de Marvel ? Ça fait longtemps, dis donc, j'ai pas parlé de Marvel. Ma dernière miniature d'émission avec Marvel, c'était il y a un mois.
Ça va.
Bon, il y a un sujet que j'ai déjà pas mal abordé dans l'émission, c'est le sujet de la super-héros fatigue. Sujet qui consiste à dire, eh, vous nous saoulez avec vos films de super-héros. À force de vouloir en sortir 27 cargaisons par an, sans compter les séries, sans compter la promo, sans compter les vidéos YouTube avec des théories, les mugs avec les fesses de Deadpool dessus, il y a une certaine lassitude qui s'est créée auprès du public. Et ça, ça s'est ressenti inévitablement depuis la sortie de Avengers Endgame, qui a marqué une sorte de fin de cycle. Et les films qui sont arrivés ensuite chez Marvel ont déçu, voilà, on va utiliser un euphémisme, on déçu au niveau du box-office. Et tout n'est pas acheté, clairement, dans ce qui est sorti. Hein. Niveau série, par exemple, j'ai pas mal apprécié Loki, j'ai pas mal apprécié WandaVision. Et si on parle des films, j'ai de la sympathie pour Multiverse of Madness et surtout pour Les Gardiens de la Galaxie 3. Mais chez Disney, on sent bien que l'ambition maintenant, elle est de réduire un petit peu la vitesse de production qui sont dans un sentiment de « Merde, ça fait des années qu'on les gaffe comme des oies le soir de Noël, à un moment, ils vont dégueuler. » C'est en tout cas ce que révèle un article récent de Deadline, reprenant des propos de Bob Iger, le saint patron de Disney, qui a fait plusieurs déclarations intéressantes. Il était en call avec des analystes qui lui ont posé des questions sur le rythme de production chez Marvel, et il a annoncé une feuille de route assez simple. Déjà concernant les films, le but est de passer de 4 films par an à 2 bons films, voire 3 maximum si le calendrier le permet. Il a vraiment utilisé l'adjectif « 2 bons films par an ». Vraiment l'adjectif « bon ». Frérot, c'est pas toi qui décide. Et concernant les séries, le but serait de passer de 4 séries par an à seulement 2, réduire de moitié pour éviter la surabondance sur leur plateforme Disney+. Et en vrai, la surabondance au départ, c'est un fonctionnement que je peux comprendre quand tu lances une plateforme de streaming. Évidemment, t'as besoin de beaucoup de contenu dessus, j'aime pas ce mot, mais voilà, t'as besoin de contenu. Du coup, faut produire énormément pour que les gens restent abonnés à ta plateforme et y trouvent une forme d'intérêt. Et du coup, tu t'appelles Disney, qu'est-ce que t'as sous la main? Bah, t'as Marvel, t'as Star Wars, t'as des films d'animation. Allez, on va faire des séries à partir de tout ça et hop, ça remplit. Sauf qu'au bout d'un moment, les gens n'en peuvent plus. Ils veulent de la nouveauté, pas en boucle les mêmes épisodes filler que si jamais t'as raté un épisode, tu peux pas voir le film d'après parce que tu vas rien comprendre. Anecdote, avant d'aller voir The Marvels en salle, sans déconner, j'ai dû me taper sur YouTube un résumé de la série Miss Marvel parce que j'avais pas le temps de la mater. Non mais voyez à quoi on en est réduit, sérieux. La déclaration exacte de Bob Iger est la suivante, je le cite. Nous devons petit à petit réduire le volume. Nous travaillons dur avec le studio pour réduire les sorties et nous concentrer davantage sur la qualité. Une déclaration assez bizarre, parce que si je lis en sous-texte ce qu'est en train de dire le bonhomme, il dit clairement que ça fait des années qu'il se concentre davantage sur le fait de produire de la masse plutôt que de produire des trucs bien. Ah, il peut en foutre ça autant qu'il veut sur le dos de son prédécesseur Bob Chapek, mais au bout d'un moment, il va falloir assumer ses propos. La personne en charge des studios Disney a dit clairement que ça fait des années qu'il s'intéresse davantage aux porte-monnaie des gens plutôt qu'à de leur fournir des bons films. C'est vraiment une dédicace pour les gens qui me sortent. Ouais, comment t'oses dire que Marvel c'est de la merde? Le mec en responsable à la tête du truc dit que c'était pourri depuis des années. Mais bon, voilà. Comme ça, la prochaine fois que je vous dis vous mangez du caca, eh ben, j'ai une citation à ressortir. Merci Bob Iger. Après, bon, dans l'article, il a fait plusieurs autres déclarations, un peu horribles, mais personne n'est surpris. En gros, il a expliqué, ouais, faut des trucs originaux, mais on va quand même pas mal se reposer sur des suites. C'est pour ça que du côté de Disney, ça propose de moins en moins de nouvelles IP, hein. Les prochains projets, c'est chez Pixar, va y avoir Vice Versa 2, Toy Story 5, et puis de l'autre côté, on va avoir Frozen 3, Vaiana 2, Zootopie 2. Vous voulez de l'originalité? Eh ben, allez ailleurs, c'est pas le programme, les copains. Et ils font pareil du côté de la Fox, hein, quand ils l'ont racheté, c'était pour le catalogue de licences, du coup maintenant, faut l'exploiter. C'est pour ça qu'on va avoir une suite à La Planète des Singes, un nouveau Alien, les nouveaux Avatar, j'en parle même pas. Va y en avoir 12, même cryogénisé, James Cameron, il continuera à en sortir. La méthode est simple, réduire les propositions et se concentrer sur ce qui marche pour rassurer les gens et s'assurer d'avoir leur ticket de cinéma, en leur promettant que cette fois-ci, ce sera des bons films. Et ce fonctionnement, il a déjà démarré. Je veux dire, regardez l'année 2024. Pour l'instant, en termes de super-héros, tout ce qu'on a eu, c'est The Marvels. The Marvels qui était horrible, vraiment. C'était un très, très mauvais film. On va avoir dans quelques semaines Deadpool et Wolverine qui va être la méga giga partout pour flatter l'ego des fans de comics. Et c'est tout. Il y a les séries, bien évidemment, mais niveau cinéma, emballé, c'est pesé. D'un autre côté, vu le pognon que va générer Deadpool, ils n'ont pas besoin de s'emmerder avec autre chose, hein. Vraiment, juste avec ce film-là, ils ont leur bilan annuel qui est plié. Et là, imaginez. Deadpool marche pas. Pire, il se plante. Alors, personne n'imagine ce cas de figure, c'est sûr, mais si jamais ça se produisait, faut tout arrêter, faut mettre la clé sous la porte et remballer. C'est un peu une année de repos pour les super-héros, de toute façon. C'est la même chose du côté de chez Warner, qui est en pleine refonte et qui redébarquera en 2025 avec la nouvelle formule Made by James Gunn. Ils ont d'ailleurs sorti la première photo du nouveau Superman de DC. On m'a beaucoup demandé de commenter la photo et globalement, c'est un acteur en costume de Superman. Il y a vraiment pas grand-chose à dire, sérieux. En vrai, les seuls qui foutent la merde dans ces vacances super-héroïques en quelque sorte, c'est Sony. Sony, ils peuvent pas s'en empêcher, ils en sortent 3 cette année et ils sont tous plus pourris les uns que les autres. Ils s'en sont fait une spécialité, hein. Nous, ce qu'on fait, c'est du nanar, mais les gens achètent, donc on va pas s'arrêter. Morbus, hein, les gens y sont allés, c'est terrible. Rien que cette année, on s'est déjà tapé l'horrible Madame Web, dont j'ai encore quelques traumas, et il va y avoir encore d'ici la fin d'année Venom 3 ou Kraven le Chasseur. Il y a vraiment des gens qui ont envie de voir ça. Il y a vraiment des gens qui ont dit Venom 2, c'était super, j'en veux un troisième. Oui, les Chinois. Sans déconner, la seule raison pour laquelle la saga Venom continue, c'est parce qu'elle marche vachement bien sur le territoire chinois et que du coup ils se disent ah, il y a du pognon à tirer là-bas, du coup on va faire un Venom 3. Et puis s'ils renouvellent pas le truc assez souvent, ils vont perdre la licence Spider-Man. Ouais, vraiment, ils font les films pour l'amour de l'art. Ils aident vraiment pas la cause, c'est du film de super-héros produit à la va-vite, où il n'y a pas particulièrement d'enjeu, où même le casting se pose des questions de qu'est-ce qu'ils foutent là. Non, vraiment, ça n'a aucune forme d'intérêt. Tu m'étonnes qu'il y ait des gens qui aient une super-héros fatigue à l'idée d'aller voir ça. Moi, je suis fatigué rien que d'en parler, rien que d'y penser à ces films, j'ai envie d'aller taper une sieste. Je vais peut-être faire ça, tiens. Aller faire une sieste. Pendant que, de son côté, Bob Iger, il fait plus que des bons films, c'est promis. Promis. si tu entends ça, c'est que tu écoutes la version podcast de l'émission. En effet, dans la version vidéo, on est en train de parler des films en salle à ne pas rater cette semaine. Mais nous, de notre côté, on va se faire un petit point sur le box-office. Alors, qu'est-ce qui marche en salle ? On va même pas attendre, on va attaquer direct par l'évidence. Bien entendu, le premier en salle cette semaine en France, c'est Un petit truc en plus, la comédie d'Artus, qui réunit 930 000 spectateurs pour seulement 455 salles. C'est un démarrage qui est extraordinaire. On en avait déjà parlé dans l'émission. Mais ce succès, on a été assez dithyrambique, va falloir un peu le relativiser, parce qu'on a beaucoup dit « c'est le meilleur démarrage depuis Bienvenue chez les Ch'tis ». En fait, ça oublie pas mal de trucs niveau data. Parce qu'il y a eu d'autres démarrages records, hein. Il y a eu La Vérité si je mens 3, il y a eu Les Touches 3, il y a eu Kaamelott, même Nous finirons ensemble, la suite des petits mouchoirs, c'était aussi sorti un 1er mai, ça avait fait un démarrage de dingue. On peut pas enlever à la comédie d'Artus qu'elle a fait un super premier jour, mais il y a eu jeudi et vendredi un petit ralentissement qui a été un poil pénalisant. Après, les prédictions que j'ai vu passer à droite à gauche tablent sur un minimum de 4 millions d'entrées, ce qui serait déjà particulièrement beau. On peut aussi envisager que la deuxième semaine de diffusion du film soit plus forte parce que bah, mercredi et jeudi sont des jours fériés. Des gens vont faire le pont ensuite. Avec le week-end, ça va faire que du bonus et davantage d'entrées dans les cinémas. Et puis surtout, ce mercredi, vu le succès qu'a eu le film en première semaine, bah, va y avoir davantage de salles qui vont le diffuser pendant la deuxième. Notamment pas mal de petites salles en province qu'on les filme plus tard. Ça va évidemment particulièrement aider son nombre d'entrées. Ouais, je disais 4 millions de prédictions. C'est possiblement une fourchette très très basse. Artus est un peu parti vers les sommets. En deuxième position du box-office français de la semaine, il y a The Fall Guy qui a un démarrage un peu tiédasse, voilà, il faut le dire. Il a fait 272 000 entrées sur 600 copies. C'est tiédasse en fait en rapport de la promo complètement dingue qui a été fait autour du film. Le problème, c'est que le démarrage tiédasse de The Fall Guy, il tend à se confirmer même à l'international. Même sur le sort américain, le démarrage a pas été dingue. On sait même pas encore d'ailleurs si le film va être globalement rentable, ce qui serait super triste parce que le film est super. Pour faire quelques comparaisons, en France, le film a fait un moins bon démarrage que Godzilla Cross Kong. Il fait mieux que SOS Fantôme, mais voilà, il reste quand même dans une certaine fourchette et il ne s'en démarque pas particulièrement. À voir si ça se maintient, si ça peut avoir un succès sur la durée, mais l'arrivée cette semaine en salle du nouveau film de La Planète des Singes va clairement pas l'aider. On sait même pas si concernant The Fall Guy, le million est atteignable. En troisième position des nouveautés, c'est la comédie Le Tableau Volé qui fait 109 000 entrées sur 248 copies. Il a pas été énormément distribué, il a un score vraiment pas déshonorant, surtout en plus avec la concurrence qu'il y a eu avec Artus sur le secteur de la comédie. Et si on veut féliciter des gens concernant le distributeur du film Pyramide, eh ben Le Tableau Volé est le meilleur démarrage pour Pyramide depuis 5 ans. Voilà, le dernier démarrage de cette qualité-là chez Pyramide, c'était Mademoiselle de Jonquière, donc bravo, bravo l'équipe, bien joué. En quatrième position du box-office cette semaine, c'est Les Cartes du Mal qui fait 106 000 entrées sur 199 copies. C'est une moyenne qui est pas déconnante, alors que la presse trouve que le film est affreux, mais c'est par exemple au-dessus d'Immaculée, au-dessus de La Malédiction, au-dessus de Imaginary. Après, ça reste en dessous de licences établies comme Scream ou Conjuring, mais c'est pas déconnant. Et je vous en parlais la semaine dernière, il y avait trop de films qui allaient sortir en salle, évidemment, donc il y en a qui ont un peu perdu la bagarre. Jusqu'au bout du monde fait 64 000 entrées, la comédie Petite Main en fait 51 000, et Une Affaire de Principe, le biopic sur José Bové, en fait 44 000. Il faut quand même noter que cette semaine, on a eu la ressortie de Star Wars 1 pour le Star Wars Day, qui était le 4 mai, et ça a été pas mal, un très joli score puisque le film a fait 50 000 entrées. Et je me permets d'ailleurs d'envoyer de l'amour à ceux qui se sont tapés le marathon du Grand Rex où ils ont diffusé les 9 films à la suite. Qui fait ça ? J'adore Star Wars, mais je ne m'inflige pas ça, mon Dieu. Pour parler des films sortis les semaines précédentes, la continuité, nous avons Back to Black, le biopic sur Amy Winehouse qui fait plus de 259 000 entrées. Il devrait atteindre le million sans trop de problèmes. On a Kung Fu Panda 4 qui est déjà à 2,2 millions. Il va rester en salle encore un petit moment. Il va tranquillement se diriger vers ses 2,5 millions. Et des films que j'ai bien appréciés comme Challengers par exemple, c'est plus compliqué. Il a atteint péniblement les 300 000 entrées. Il semble déjà ralentir, comme d'autres films sortis les semaines précédentes. Parce qu'on va rapidement dire au revoir en salle à SOS Fantôme, on va dire au revoir à Civil War, on va dire au revoir à Godzilla, qui vont être gentiment poussés vers la sortie avec toutes les grosses nouveautés américaines qui arrivent. Et du côté du cinéma purement français, Ducobu a réussi à péter le million. Bravo, c'était l'objectif, vous êtes des champions. Et Nous les Leroy a dépassé les plus 500 000 entrées. Maintenant que Artus est arrivé sur le secteur de la comédie, ils vont forcément prendre un gros coup de frein. Mais il y a des entrées. Il se passe des choses au cinéma quand même. Les films mobilisent des gens. On se plaint beaucoup du fait que oh, les salles de cinéma, ça remplit pas tant, blablabla. Mais le cinéma, cette semaine, reprend des couleurs. Il faut le dire quand ça marche. Là, ça marche, ça fait plaisir. Continuez d'aller au cinéma et on se fera un autre bilan des entrées la semaine prochaine. Il est l'heure de la question du public. Vous le savez, à chaque émission, je poste une story sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram où je vous dis « Hey, vous avez une question sur l'actualité ?» Et si vous en avez une et que j'ai quelque chose à répondre à ça, ben je la sélectionne et ensuite, elle passe dans l'émission. Le plus simple, c'est de me suivre sur Instagram. Il va y avoir des annonces dessus. Donc bref, le lien est en description. Et aujourd'hui, la question nous vient de Julien Pringot qui demande « Un nouvel Astérix, bonne ou mauvaise idée ?» et la création de ce nouveau pôle au studio Canal. Comme disait Dalida... Parole, parole. Bon, on va commencer la question par la fin. Faut parler de ce pôle, de ce nouveau label qui a été créé, en fait, chez Studio Canal. Et c'est un label qui s'appelle Studio Canal Stories. L'idée, c'est qu'ils se sont rendus compte que ce qui marche bien au cinéma, c'est les adaptations littéraires. Et du coup, ils se sont dit, on va créer un label spécifique pour travailler davantage sur des adaptations littéraires au cinéma. Alors qu'aux US, ça, bon, bah, ils l'ont compris depuis longtemps. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, quoi, les Marvel? C'est des bouquins, ça. Ok, on adapte. Les chiffres exacts concernant la France, c'est que 44% des 100 plus gros succès au box-office sont des adaptations. Et du coup, ils se sont dit, il faut se focus là-dessus et en adapter davantage. Il y en a déjà deux dans les tuyaux et pas des moindres. Tout d'abord, il y a L'amour ouf de Gilles Lelouch qui est adapté d'un livre qui s'appelle Jackie Loves John Sir Hockey de Neville Thompson. Et il y a aussi le film d'Azanavicius, le film d'animation La plus précieuse des marchandises qui est adapté, lui, d'un conte de Jean-Claude Grimbert. Ce qui est annoncé là, en vérité, c'est une nouvelle sans être une nouvelle. Ils ont juste mis un nom de label sur un truc qui existait déjà, à savoir que on part de bons écrits en espérant que ça donnera ensuite un bon film. Alors que adapter un livre, c'est pas forcément signe d'un succès. Hein. Tu peux avoir un super bouquin et que le film soit pourri derrière. Voilà, ça c'est pour ma team. Le livre était mieux, là là là. Mais disons qu'ils veulent en faire davantage. Pourquoi pas? Et du coup, ils ont décidé d'inaugurer ça avec un gros projet d'ampleur. Oui, le premier gros projet de ce label, c'est un nouveau live-action Astérix. Ah bah oui, on fait comme aux US, hein. On adapte nos BD, nous aussi. Bah oui, vous croyez quoi? Je vais vous lire la déclaration exacte du big boss Maxime Saada. Je cite. Notre premier projet pour inaugurer en beauté ce nouveau label sera la prochaine adaptation de la franchise la plus puissante de Hachette, en bande dessinée et au cinéma, le numéro 1 absolu toute catégorie, le personnage français le plus populaire à travers le monde, Astérix, dont Studio Canal développera le prochain film en live action. Et cette nouvelle, elle a ça de particulier qu'elle est à la fois extrêmement intéressante et en même temps, pas du tout. Intéressante parce que ça fait des années que les adaptations d'Astérix sont faites sous l'égide de Pathé, ce qui a donné le meilleur avec Mission Cléopâtre et le pire avec tous les autres. J'ai de la sympathie en vrai pour le premier film Astérix et Obélix contre César. Il est foutraque, il veut rien dire. Mais l'univers autour, la DA, etc. Ça me plaît bien, sûrement lié à l'enfance. Là, avec le départ chez Studio Canal, ça va permettre d'avoir un nouvel œil sur la saga qui commençait à sentir un petit peu le formol et qui va permettre d'oublier rapidement le dernier film de Guillaume Canet qui était horrible, horrible. Donc ça, c'est intéressant. Par contre, ce qui est moins intéressant, c'est que ben on sait rien de ce projet. C'est, on sait qu'il va exister, mais sinon on sait rien. On sait que ça se développe, mais on sait pas qui écrit, qui réalise, qui va jouer Astérix, qui va jouer Obélix. Est-ce que Guillaume Canet et Gilles Lelouch vont reprendre leur rôle, ou est-ce qu'ils seront trop occupés sur d'autres trucs après le Festival de Cannes? On n'en sait rien. C'est une promesse en l'air où je peux pas vous donner d'avis parce que j'ai littéralement pas d'infos. Tout ce que je me dis, c'est vous voulez faire un nouveau film Astérix? Faites-en un bon, s'il vous plaît. Après, on peut spéculer, on peut avoir des fantasmes. Si je faisais un film Astérix, à qui je confierais la réalisation? Allez, Oscar Axe. Ce serait trop bien, ce serait tellement drôle. Oh non, à Bruno Dumont. Un film Astérix par Bruno Dumont. J'ai du mal avec plein de trucs du gars, mais franchement, ça donnerait un film, je courrais pour aller le voir. Oh non, à Quentin Dupieux, un Astérix un peu bizarre, un peu absurde. Il détesterait ce que j'entends dire, il détesterait faire ce film, mais ce serait tellement drôle. En fait, tout sauf Philippe Lachaud. Je le sens venir. Je le sens venir gros comme une maison, c'est terrible. Ça pue le film où Philippe Lachaud va jouer Astérix. Je le sens à 20 km. En vrai, dites-moi, vous, dans les commentaires, votre fantasme de réal pour faire justement un film Astérix. Hein. Vous pouvez dire n'importe quoi. Moi, j'ai dit le Oscar Axe, hein, ça ne se produira pas, évidemment. Sachant qu'il y a deux noms qui vous sont interdits, vous n'avez pas le droit de dire Alain Chabat, parce que de toute manière, il est trop pris par la série d'animation Astérix qu'il est en train de faire pour Netflix. Et vous n'avez pas le droit de dire le fantasme geek Alexandre Astier. Non, lui, il est trop pris à faire encore 27 films Kaamelott qui sortiront sur les 57 prochaines années. Mathieu Kassovitz à l'AREA. Abdelatif Kechiche à l'AREA. Non, je l'ai. Bertrand Blier. Bertrand Blier. Le texte de Bertrand Blier appliqué à Astérix. Ce serait formidable. Ouais, pour l'instant, c'est ça. C'est du rêve. Mais au moins, le rêve, c'est gratuit.
Pour le cinéma, monsieur Leblanc, pour le grand écran. Pas pour la petite lucarne.
Allez, un film pour finir et on remballe. Vous le savez, à chaque fin d'émission, je termine en vous parlant d'un film que j'ai apprécié ou non. Et le vendredi, c'est pas moi qui parle d'un film, c'est vous. Est-ce que je fais du coup ce passage-là parce que y a pas d'émission vendredi? En vrai, ça me fera du stock pour les prochaines émissions, donc hésitez pas. Si jamais vous avez envie de parler d'un film, envoyez un audio à l'adresse mail lepirepodcastinaire@gmail.com. Ça passera quand l'émission reprendra un vendredi. Voilà, je mettrai tous les trucs que j'aurai accumulés. Ça me fera du stock pour les mois à venir, pour les vacances, pour l'été. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un film qu'on a la chance d'avoir en France distribué en plus sur pas mal de salles et qui est une petite surprise qui m'a fait beaucoup de bien. Ça s'appelle comme un lundi. Bon, j'avais assez peu entendu parler de ce film avant de le voir dans les films annoncés pour sortir ce mercredi, et en voyant de quoi ça parlait, j'avais un peu peur. Parce que tout son concept, c'est une boucle temporelle, de la même manière que Un jour sans fin, sauf que là, on suit des employés de bureau qui doivent répéter inlassablement la même semaine encore, encore et encore. Et le truc, c'est que j'adore le cinéma japonais, mais quand j'ai vu ce principe-là, je me suis dit deux choses. La première, c'est que, quand même, putain, le genre, il commence à être éculé. Et de deux, bah, y a un autre réal japonais qui bosse beaucoup ce truc-là en ce moment et qui s'appelle Junta Yamaguchi. Junta Yamaguchi, il vient d'un certain cinéma indépendant. Il a fait deux films autour du concept des boucles temporelles. Le premier, c'est Beyond the Infinite 2 Minutes, où c'est en gros la possibilité de voir 2 minutes dans le passé ou dans le futur. Et juste après, il a fait un film qui s'appelle River, et où là, le principe, c'est que c'est les deux mêmes minutes qui loupent encore et encore. Et River, c'est vachement bien. C'est Beyond the Infinite 2 Minutes en abouti. En fait, là où il a été malin, c'est qu'il a réduit le dispositif à mort. Au lieu de faire boucler une journée entière, il a fait boucler les même 2 minutes, ce qui rend le concept vraiment fort et à suivre en plus en temps réel. Et du coup, avec Comme un lundi, voilà, voir le Japon proposer encore une nouvelle forme de boucle temporelle, j'étais un peu en mode « Mouarf, qu'est-ce que ça va donner ? L'inventivité est peut-être ailleurs. » Et en fait, c'est super cool. Faut vraiment que vous alliez voir en salle Comme un lundi. Titre vraiment pourri d'ailleurs, Comme un lundi. Je comprends, ils ont été dans la galère. Hein. Normalement, le film s'appelle juste, bah, aux US, il s'appelle Monday. Mais en vrai, j'ai un peu envie un peu de critiquer l'affiche aussi, parce que l'affiche américaine est aussi vachement mieux que l'affiche française. Bref, c'est un autre sujet. Comme je le disais, le concept, c'est qu'on suit des employés de bureau qui vont devoir vivre en boucle encore et encore la même semaine. Et comment justement ces employés vont se réunir pour essayer de sortir de cet enfer. Et déjà, chose intéressante, vous avez vu que j'ai parlé des employés, c'est que le concept est un peu détourné. Au lieu d'avoir un personnage principal, c'est un groupe, au contraire, qui est obligé de se souder autour de ce truc-là. Et la question, justement, de qui est le héros ou l'héroïne du récit, on te présente un personnage comme étant l'héroïne, mais est-ce que c'est vraiment l'héroïne ? Parce que ce qui est vraiment marrant, c'est que la personne qu'on te présente comme le personnage principal, bah, n'est pas la première à se rendre compte qu'il y a une boucle temporelle. Non, c'est d'autres personnes autour qui s'en sont rendues compte et qui vont essayer de la réveiller, de la sortir un peu de la Matrix, pour lui dire, on te donne des signaux, il faut que tu te rends compte, t'es pas dans un rêve, on est enfermé dans une boucle. Elle n'est pas la première à s'en rendre compte. Et déjà, ça inverse un peu les règles du concept. C'est par l'effort de groupe qu'il va falloir casser le truc, convaincre les autres. Et en fait, ça rejoint tout le propos de fond du film qui est une grosse critique du monde du travail et des employés qui sont tellement aliénés par leur truc de bureau qu'ils se rendent même pas compte qu'ils sont enfermés encore et encore dans des semaines qui se répètent. Et en fait, le film va continuellement jongler entre ces deux thématiques, entre le film fantastique et la critique du monde du travail, pour essayer de te montrer, en plus, sans spoil, mais que le seul moyen de t'en sortir, c'est à un moment de t'émanciper des codes du monde du travail, de la hiérarchie, etc. Dans une société japonaise où le travail est horrible et où ça compte pas beaucoup les heures sup, clairement, c'est pas étonnant que ce film existe. Parce que petit à petit, quitte à raconter certaines évidences, le film te montre à quel point laisser du temps aux employés pour développer les choses plutôt que de leur imposer des deadlines insurmontables, eh ben il y a quand même un des deux cadres qui est un peu plus sain que l'autre. Et surtout, ce temps en plus, il permet de s'épanouir, de vivre en dehors du travail, d'être mieux au travail, de rêver. Est-ce que le temps ne s'arrête pas quand on arrête de rêver ? Ce qui est formidable, c'est que tout ça est pas amené de manière super pompeuse, comme je suis en train de vous le dire. Non, c'est amené par l'humour du récit, c'est amené par le côté slapstick, par les petits gags, par les petits effets de mise en scène. C'est vraiment drôle et plutôt bien foutu en termes de mise en scène. J'aime bien la photo aussi. J'aime bien le traitement des couleurs et puis certaines idées visuelles qui vont revenir, comme le pigeon, comme à un moment le décor qui se déplace, comme certaines séquences au ralenti. Il y a plusieurs séquences musicales aussi dans le film qui sont vraiment marrantes. Non, globalement, comprenez que le film Comme un lundi tente pas beaucoup de trucs, mais tout ce qu'il essaye, il le fait parfaitement. C'est super efficace, en plus ça dure 1h20, les personnages sont attachants, ça permet de brasser pas mal de choses en lien avec la culture japonaise, que ce soit les groupes d'idol, que ce soit les mangas. Ça a à la fois une forme de naïveté dans la création cinématographique et en même temps de vraie maturité dans l'idée d'essayer de continuellement renouveler une forme qu'on a déjà vue 100 fois ailleurs. Et de dire à côté, travailleurs du monde, unissez-vous, l'aliénation n'est pas la solution, nique le monde du travail, au bout d'un moment, sortez et vivez vos rêves. Vous l'aurez compris, j'aime plutôt pas mal Comme un lundi, et vous avez possiblement moyen de le voir autour de chez vous, parce que c'est rare que des films japonais soient énormément distribués, mais celui-là, il sort dans plus de 150 salles en France. C'est pas rien, vraiment, d'habitude, c'est beaucoup plus confidentiel, donc vraiment coup de chance. Si vous avez moyen de le choper, allez-y, vraiment, ça va vous faire du bien. Vous aussi, vous avez le droit de rêver. Et le cinéma, ça permet aussi ça. C'est ainsi que se termine cette émission du Pire Podcast Cinéma. Merci de l'avoir suivi jusque-là. J'espère que vous allez bien et que tout va bien par chez vous et que vous n'êtes pas trop triste que je vous abandonne ce vendredi. Je suis désolé. Vous inquiétez pas, on va se retrouver très rapidement. Je vous l'assure, dès lundi, je serai de retour. Suivez-moi sur Insta pour avoir plus d'infos. Pour l'instant, c'est terminé. Et si vous en voulez encore...
Non mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là.
Par contre, la prochaine fois, avec plaisir.